moment, le... vous entendez que notre invité vient de s'installer à l'instant.
Des essais techniques.
Exactement, des essais techniques. David Bétrou est toujours là. Et ensemble, tous les trois, vous allez parler du bon usage des médicaments.
Exactement, avec Eric Bazillac. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors Eric Bazillac, vous êtes le directeur des affaires économiques et internationales du LEM, mais ce n'est pas vraiment sous cette étiquette-là qu'on vous reçoit aujourd'hui. C'est plutôt en tant que président de l'ABUM. Donc c'est l'association pour le bon usage des médicaments. Alors tout d'abord, l'ABUM c'est quoi ?
Oh, c'est d'abord une formidable aventure. C'est une aventure de collaboration entre tous les acteurs, c'était ça le pari, hein, tous les acteurs de la chaîne du médicament. Donc les médecins, les pharmaciens, les kinés, les infirmiers, jusqu'aux aides-soignants, puisque la DMR fait partie de l'ABUM, les kinésithérapeutes, les dentistes, on oublie les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription, tout ce qui est assurance, les assureurs évidemment, Clésia, et je vais en oublier beaucoup, qu'ils me pardonnent. Mais le pari initial c'est quoi ? C'est que si on veut faire bouger les lignes en matière de bon usage du médicament, c'est tous ensemble. C'est la collaboration entre les acteurs. Vous savez, on ne manque pas d'expertise sur ce sujet. Les pharmaciens, on est là dans un congrès de pharmaciens, sont de grands experts du médicament en termes de bon usage du médicament. On n'a rien à leur apprendre. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on met en branle tous les acteurs de la chaîne du médicament autour de cette cause, qui est une cause d'interaction. Il faut se parler entre nous pour arriver à se mettre au service du bon usage du médicament. C'est ça qui a réuni ces acteurs il y a maintenant 5 ans.
Il y a 5 ans, et maintenant donc l'association est bien présente, elle est reçue régulièrement, elle est colloque au ministère.
Oui,
de la Santé,
chaque année, nous organisons un forum qui est un peu notre grand-messe. Le prochain aura lieu le 18 mai, j'invite vos auditeurs à s'y rendre, effectivement à l'amphithéâtre Larocque du ministère de la Santé, qui a la gentillesse de nous ouvrir ses portes chaque fois. Et c'est pour nous l'occasion de faire valoir un thème particulier sur le bon usage du médicament. Le 18 mai prochain, ce sera le numérique sur le bon usage du médicament. Le 9 décembre dernier, nous parlions du bon usage pour et par les patients. Voilà, donc des forums. Et puis, de temps en temps, parce qu'on est une association un peu militante, hein, on est un collectif, on s'appelait comme ça au départ, donc il y a un côté un peu revendicateur, il ne faut pas le cacher, nous organisons des tribunes, hein, quand on a un peu de poil à gratter, comme ça, on a envie d'interpeller les uns ou les autres en disant « bougez-vous pour le bon usage du médicament », on fait une tribune. Donc c'est un format beaucoup plus dynamique. Par exemple, on s'est intéressé en plein Covid au bon usage du médicament. Hein. Il y avait des tas de choses à dire en pleine pandémie. Hein. Est-ce qu'on n'a pas un
d'autant
peu oublié le bon usage du médicament ?
D'autant plus que les patients étaient un peu laissés eux-mêmes, à part les pharmacies étaient ouvertes, mais quand même.
Bien sûr. On a interpellé aussi sur l'automédication et le bon usage du médicament. Hein. On est favorable plutôt à ces démarches de responsabilisation, d'automédication, mais pas n'importe comment. Il y a des choses à faire en matière de bon usage.
Alors, qu'est-ce qui a changé sur, vous dites, l'association à 5 ans, sur les 5 dernières années en termes de bon usage? Quels ont été, je dirais, les progrès les plus importants qui ont été réalisés?
Vous savez, on est parti au point de départ de 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est que le mauvais usage du médicament, la iatrogénie médicamenteuse, c'est 10 000 morts par an à peu près. Le deuxième chiffre, c'est que la iatrogénie médicamenteuse, c'est 130 000 hospitalisations par an. 30% des hospitalisations des plus de 65 ans. Donc ça en fait un fléau. Mais ce qui est intéressant, c'est le troisième chiffre. Toutes les publications nous disent que dans 50 à 70% des cas, on aurait pu éviter ces morts et ces hospitalisations. Donc ce n'est pas un fléau, c'est une cause. Et c'est ça qui nous a mobilisés. Vous voyez, on est à peu près sur les mêmes chiffres en termes de mortalité que les accidents de la route dans les années 80, quand on a commencé à vouloir faire des choses. Donc on est parti de là et on a voulu faire une preuve de concept. On s'est donné 3 ans. Notre preuve de concept a été très simple. Si on s'y met tous ensemble, parce que les enjeux de collaboration sont majeurs sur ce sujet, on devrait pouvoir faire bouger les lignes. Et donc, on a commencé par mettre en place une campagne de communication, des outils de formation pour les professionnels de santé, des réunions en région interprofessionnelles, c'était tout à fait fondamental. On a fait bouger les logiciels d'aide à la prescription pour qu'ils puissent avoir conscience des interactions médicamenteuses. J'en passe, la création d'un site internet très important qui est devenu référentiel aujourd'hui, bonusagedumédicament.com, où on peut trouver tous les outils nécessaires, où on trouvera des interviews passionnantes, où on en trouvera les derniers éléments de la littérature sur le sujet. On a mis en place toutes ces actions, on les a mesurées et au bout de 3 ans, on en a rendu compte. Sur 2 indicateurs, le nombre de médicaments différents prescrits chaque semestre chez les personnes âgées qui nous intéressaient particulièrement, on l'a fait bouger de 10,5 à 9,4, c'est pas mal. Et puis, le nombre d'interactions médicamenteuses, on en avait ciblé 13, les sociétés savantes qui avaient travaillé là-dessus, eh bien, on a réussi à les faire diminuer dans 12 cas sur 13, c'était pas mal. Donc, cette preuve de concept étant faite, eh bien, on s'est dit, on continue.
Donc là, il faut continuer, effectivement.
Est-ce qu'il y a justement aujourd'hui des pathologies particulières ou une classe de médicaments particuliers là, sur laquelle vous êtes très attentif, qui sont susceptibles d'être, je dirais, entre guillemets, de pouvoir causer quelques désagréments, voire des effets secondaires un petit peu compliqués, et sur lesquels vous vous penchez aujourd'hui?
Alors, ce n'est pas notre porte d'entrée. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on a beaucoup évolué depuis 5 ans. On a commencé à s'appeler collectif de lutte contre la iatrogénie.
C'était très militant à l'époque.
Contre la iatrogénie médicamenteuse, vous voyez. Donc, lutte contre iatrogénie, ça ne parlait pas à tout le monde.
C'est ça.
Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes l'association pour le bon usage. Vous avez remarqué qu'on veut faire, au fond, de ce sujet un sujet positif. Il n'y a que comme ça qu'on entraînera les gens. Donc, c'est un sujet positif. Et on ne voulait surtout pas stigmatiser les médicaments. Attendez, les médicaments, ils sont d'abord là pour nous faire du bien. Il ne faut pas se tromper de message. Mais ils ont parfois du mal à vivre ensemble. Il faut les connaître. Il faut bien les utiliser. Donc, on ne part pas des médicaments, même si, vous verrez sur le site, on fait évidemment des communications ciblées sur telle ou telle problématique. On s'est intéressé, par exemple, dernièrement à la surconsommation d'opioïdes dans le cadre d'androgènes dans le cadre de la pratique sportive, par exemple. On a fait dernièrement un reportage aussi avec un expert tout à fait passionnant sur le sujet, sur la consommation médicamenteuse en milieu carcéral. Vous voyez, donc on a évidemment des thématiques très ciblées parfois, mais notre porte d'entrée, encore une fois, c'est plutôt les positives. C'est comment est-ce qu'on peut mobiliser des actions pour promouvoir le bon usage du médicament. C'est cette idée-là, tous ensemble.
Est-ce que vous travaillez justement avec l'Agence du médicament et la HAS qui édite des recommandations pour le bon usage? Il y en a eu il n'y a pas longtemps sur les médicaments qui pouvaient causer des altérations rénales chez les personnes âgées. Et on a découvert que les antihypertenseurs, par exemple, il fallait faire attention à partir d'un certain âge parce qu'il fallait voir. Voilà. Enfin bon, des recommandations très intéressantes. Sur la NSM, bon, c'est vrai qu'il y a des prises de... Alors, elle a une position de police sanitaire, donc elle prend la décision, mais j'imagine qu'avant, elle vous consulte, ou en tout cas...
Alors, elle nous consulte, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est nous qui allons nous regarder les références expertales que ces institutions éditent, qui les relayons sur notre site. Donc, tout ce que fait la NSM et la HAS nous intéresse, effectivement, et nous nous inféodons à ces recommandations. C'est quand même eux, les experts. Nous ne sommes que les acteurs qui nous mettons en branle, encore une fois, pour démultiplier ces discours. Donc, toutes les recommandations de la NSM et de la HAS, qui font un boulot formidable, sont effectivement relayées sur notre site. La collaboration, elle s'est beaucoup passée avec le DPC, par exemple. Je vous disais tout à l'heure à quel point la formation est un enjeu. Formation initiale, pas pour les pharmaciens, encore une fois, sont des grands experts. Formation initiale pour les médecins, sûrement. Formation initiale pour les infirmiers, pour les kinés, pour les professions paramédicales, très certainement. Mais formation continue. Et donc, nous avons été ceux qui sommes allés dire à la directrice générale du DPC, mais c'est très bien d'encourager dans les DPC des formations continues sur le bon usage du médicament, mais pourquoi vous le faites de façon cloisonnée? Faites-le ensemble. C'est un sujet de collaboration avant tout. Donc, faites des DPC communs, médecins-pharmaciens, sur ces sujets du bon usage, avec les infirmiers aussi, d'ailleurs, qui seraient très utiles. Je crois que nous l'avons convaincue, et elle nous a effectivement saisis pour travailler sur ces sujets et lui faire des recommandations.
Et en termes de formation, on va former effectivement les professionnels de santé, mais il y a aussi les patients qu'il faut former sur ce sujet, parce qu'aujourd'hui, les patients ne savent pas... pas très bien lire leur ordonnance, ils ne sont pas souvent à même de comprendre comment elle est, ils sont obligés d'aller voir le pharmacien, c'est le pharmacien qui est là pour leur expliquer. Qui n'arrive pas toujours à la lire non plus. Donc est-ce qu'il n'y a pas des actions aussi à mener vers ces patients pour essayer de mieux comprendre leur ordonnance?
Oui, alors c'était le thème de notre dernier forum, qui était le bon usage des médicaments par et avec les patients. Donc ça dit bien, on avait fait 2 tables rondes, chacune consacrée à un de ces 2 sujets. Ça dit bien qu'au fond, les patients, ce sont à la fois des acteurs du bon usage qui aujourd'hui sont responsabilisés au premier chef sur leur démarche de consommation, j'allais dire, le mot est totalement impropre, de médicaments, et ce sont en même temps des interfaces indispensables avec le professionnel pour effectivement orienter la prescription vers le bon usage du médicament. Donc c'est une dimension absolument phénoménale. Un exemple très concret sur lequel nous travaillons aujourd'hui et que l'ABUM, l'Association pour le bon usage du médicament, supporte, labellise et qui est en cours de réalisation, c'est la mise en place de parcours de soins pour pathologie bénigne. Donc là, le point de départ, c'est vraiment le patient. Il souffre d'une pathologie bénigne, on en a ciblé trois, l'angine, la rhinoconjonctivite allergique, la gastro-entérite virale. Et on va lui proposer, dans un parcours de soins dessiné, organisé, structuré, d'aller considérer le pharmacien d'officine comme le praticien de premier recours. C'est optionnel, évidemment. S'il préfère aller voir son médecin, il va voir son médecin. Mais il peut choisir de rentrer dans ce parcours de soins pour pathologie bénigne. Qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Des algorithmes décisionnels sur lesquels nous avons fait travailler les sociétés savantes sont à la disposition du pharmacien qui, en cas par exemple d'angine, vont dire, ils ne vont pas le dire, mais ils vont pratiquer un interrogatoire, le test de Mac-Isaac, pour savoir si derrière il y a un intérêt à faire un TROD, un test de diagnostic rapide, ou pas. S'ils font un TROD, que le TROD est positif, on prescrira. C'est le médecin, évidemment, qui à ce moment-là sera invité à prescrire un antibiotique à bon escient, lutte contre l'antibiorésistance. Et sinon, eh bien, ce sera une médication d'OTC qui pourra être donnée à l'officine. Vous voyez, donc triple avantage, on améliore les résultats en termes de santé publique, en l'occurrence là un antibiotique prescrit à bon escient, ce qui n'aurait pas été le cas dans un parcours de soins qui serait passé d'abord par la case médecin, il faut quand même le remarquer. On désengorge les services d'urgence, pense à la gastro-entérite virale, qui peuvent souvent se traiter autrement. On résout le problème de désertification médicale dans certaines campagnes où il y a toujours, par contre, une pharmacie. Et puis, on génère des économies considérables pour l'assurance maladie. On a modélisé ça. On croit beaucoup en ces parcours de soins officinaux, mais il faut qu'ils soient structurés. Et puis, dernier élément, la traçabilité. Aujourd'hui, quand vous êtes en automédication, je n'aime pas du tout ce terme à l'officine, et que vous consommez un médicament d'OTC, malheureusement, il n'y a pas de traçabilité en termes de pharmacovigilance, c'est un problème. Donc là,
ça pourrait être normalement dans le dossier pharmaceutique, mais c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe de le faire.
Voilà. Donc demain, avec mon espace santé, etc., donc nous, on fait en sorte que dans ce parcours de soins, il y ait systématiquement une traçabilité et une interopérabilité, une communication vers le médecin. Les médecins ne sont pas en dehors de ce parcours de soins. Ils sont informés de ce qui s'est passé à l'officine. Et donc on travaille sur ce sujet qui met le patient vraiment...
Et est-ce que justement on a vu ces derniers mois avec cette pandémie, la relation des patients avec leurs médicaments a changé, en sens on peut être un peu plus faire attention à ce que l'on consomme dans la mesure où il y a la notion de risque qui est arrivée, ou est-ce que vous avez remarqué est-ce que cette crise a changé quelque chose dans la relation, dans le bon usage des médicaments?
Alors moi je crois profondément, mais vous savez comme dans toute crise il s'est passé le pire et le meilleur. Donc le pire, c'est les fake news. Mais au moins, et on a beaucoup parlé de ça lors de notre dernier forum, au moins maintenant, les gens savent, en tout cas ceux qui veulent savoir, peuvent savoir qu'ils se baladent sur Internet des informations qui sont en fait de la désinformation et avec des conséquences gravissimes. Donc il y a ce phénomène de fake news qui est venu parasiter la prise de responsabilité des patients, et c'est dommage. Mais ça, c'est le pire. Mais le meilleur est à côté. Le meilleur, ce sont des patients qui, effectivement, je crois, auront appris beaucoup de choses sur le médicament. Et pour tous les professionnels de santé dont je fais partie, c'était une belle opportunité pour communiquer, pour mieux faire comprendre ce qu'est un médicament, pour en comprendre les avantages, les limites. Vous savez, au fond, et là, on l'a tous appris, le médicament, c'est le résultat d'une balance entre un bénéfice et un risque. C'est pas quelque
chose...
Nous,
on l'a appris.
Voilà.
Mais c'est vrai que le patient...
Non, mais je crois qu'on a eu tous l'opportunité d'en refaire la pédagogie. Ouais. Je ne dirais pas que c'est acquis, mais la crise nous a offert cette possibilité de remettre tout cela en perspective.
Et puis à redonner, je dirais, ou donner enfin aux pharmaciens toute sa place, parce que dans cette information sur le médicament, aujourd'hui, personne ne peut imaginer que le pharmacien ne joue plus de rôle en termes de santé publique.
Et les pharmaciens ont joué un rôle extraordinaire, formidable, formidable. Alors c'est un lieu commun de le dire ici à Pharmagora, je pense que... Mais on a envie, quand on les croise, tous de leur serrer la main en disant bravo et merci.
Alors si je puis me permettre, un pharmacien m'a expliqué qu'il avait été convié pour un colloque dans le Deux-Sèvres où j'habite, un colloque organisé par la caisse Agirc-Arrco, et il a proposé en fait de faire une conférence sur le bon usage du médicament. Il a été surpris. 40 personnes sont venues, il y avait 200 personnes à peu près, et c'était un atelier. Il a été surpris que 40 personnes soient intéressées. Ça répond un peu à ce que vous disiez, Jean-Yves Méré. Je pense qu'il y a vraiment effectivement une attente d'être éduqué par rapport aux médicaments, de comprendre pourquoi ils ont tel médicament, et puis cette notion peut-être aussi pourquoi c'est prescrit, pourquoi ça peut être dangereux pour moi ou pas dangereux pour l'autre.
Oui, je procède du même étonnement que votre ami des Deux-Sèvres. Quand on a créé cette association, franchement, moi j'ai commencé d'abord par être ému du nombre de participants autour de la table, qui étaient des acteurs. Donc ça intéresse les acteurs du soin, ce sujet-là. J'ai été surpris dans un deuxième temps du fait qu'ils sont tous restés autour de la table pendant 5 ans, tous. Et la table a dû même s'agrandir. Donc le sujet est pertinent et je suis chaque fois ému à nouveau de voir que les patients sont aussi extrêmement intéressés. Donc on est sur un sujet qui nous intéresse et je crois qu'on c'est fait ça. Le sujet intéresse, on n'a plus à douter de cela. Maintenant il faut qu'on soit responsable du contenu de ce que l'on dit, qu'on apporte des choses utiles, pragmatiques. Vous savez, si vous allez sur le site de l'ABUM, hein, l'association bonusagedumédicament.com, vous y trouverez au fond ce qui répond à nos 5 préoccupations, nos 5 types d'actions. Premier sujet, c'est informer. Donc on a fait en sorte qu'il y ait, pour le grand public, hein, comme pour les professionnels, on ne discrimine pas. Donc vous pouvez trouver ce qui est à votre niveau de compréhension, de l'information, avec des reportages, avec des professionnels qui vous parlent de sujets parfois très pointus, et puis également de sujets plus généraux. Le deuxième sujet pour nous, qui était extrêmement, extrêmement important, c'est innover. Vous savez, il y a un foisonnement d'innovation, de créativité à partir des start-up aujourd'hui sur le thème du bon usage du médicament. Moi, je l'ai découvert en faisant cela. Je ne le savais pas.
Et le numérique a changé aussi énormément de choses. L'analyse de données, les bases de données qui
existent aujourd'hui ont
changé énormément de choses.
Et donc, à l'ABUM, eh bien, on teste ces innovations. On leur propose de rencontrer le collectif pour qu'ils testent eux-mêmes, et ils ont tous les professionnels là, de la chaîne du médicament, donc c'est très privilégié pour eux. Et puis on les promeut également en les faisant pitcher dans nos forums, donc c'est génial, ils ont 5 minutes, ils présentent leur innovation. On a créé avec l'Académie de pharmacie un prix international du bon usage du médicament. Donc vous voyez, on fait énormément de choses également en faveur de l'innovation. Et puis après il y a aider. Et sur le site, et je m'adresse là vraiment à tous vos éditeurs, vous trouverez des outils du quotidien pour le bon usage du médicament. Si vous voulez une affiche pour mettre dans votre salle d'attente ou dans votre officine, si vous voulez un leaflet pour remettre à votre patient qui donne des conseils d'utilisation, si vous voulez un magnète pour coller sur le frigidaire, pour que, voilà, vous avez tous ces petits outils du quotidien, mais qui sont véritablement pertinents, qui sont pillables à l'envi. Nous, on est là pour être pillés.
C'est un magasin de souvenirs avec les magnètes.
Je n'ai pas de tour Eiffel encore.
Vous parliez justement du prix international du bon usage. Vous avez cette expérience internationale par vos fonctions au COLEM. Est-ce que dans d'autres pays, il y a une démarche similaire? Est-ce que la France est plutôt en avance, je dirais, par rapport à d'autres pays européens, voire les États-Unis?
Alors, on avait fait il y a 2 ans un tour du monde du bon usage du médicament. La France n'est pas seule, évidemment, à se préoccuper de ce sujet. Donc, il y a des expériences diverses et variées. J'aurais du mal à classer, à faire un classement. Ce qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est de constater, d'une part, que la problématique du bon usage du médicament est universelle. Si vous prenez un sujet comme la lutte contre l'antibiorésistance, vous ne pouvez pas vous préoccuper de ce sujet en restant à l'intérieur de nos frontières, ce n'est pas possible. Et j'ai travaillé, moi, pendant 3 ans sur ce sujet avec le Vietnam, par exemple. On avait des chiffres à peu près comparables, donc des propositions d'action. Les systèmes de santé ne sont pas les mêmes, mais qui peuvent parfois s'inspirer les unes des autres. Je rentre d'Afrique, là, aujourd'hui, du Sénégal particulièrement. Avec l'Afrique, nous avons monté un programme de bon usage du médicament qui passe par l'éducation dans les écoles des enfants sur ce qu'est un médicament, à partir de dessins animés, hein, de choses simples. Et vous savez pourquoi les enfants? Parce qu'en Afrique, ce sont eux qui vont apprendre, éduquer à leurs parents la façon dont il faut regarder et utiliser un médicament.
Donc en fait, il faut regarder à l'international les choses qui peuvent être intéressantes, les adapter pour la France. Et puis, est-ce que justement, il y a une action au niveau international que vous avez particulièrement remarquée, en disant que c'est peut-être une bonne idée pour la France si on arrivait à ce niveau-là, une prise de conscience ou une activité particulière?
Non, je vous parlais de cette opération qu'on a fait en association avec les premières dames d'Afrique qui passent par les écoles et qui effectivement promeut, d'abord enseigne ce qu'est un médicament. Ça va pas de soi, on a besoin de définir un médicament, c'est là pourquoi
même en France, hein.
et c'est pour ça que je vous dis, en fait, la flèche a fonctionné dans le sens de c'est eux qui nous ont inspirés de ce point de vue là en France, ça n'existe pas, ça. Quand on a rendu compte de notre trois premières années d'expérience à travers cette preuve de concept, on avait invité Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui nous a fait l'honneur de venir assister à notre bilan. Et pour saluer son arrivée, on avait fait 10 recommandations. Effectivement, 10 recommandations. Et parmi l'une de ces recommandations, on lui disait: Madame la Ministre, enseigner le médicament à l'école. Voilà, comme on l'a vu faire en Afrique, enseigner le médicament à l'école. Eh bien, on attend toujours que ça soit fait, mais je crois qu'il y aurait vraiment quelque chose d'intéressant à développer autour de cette idée qui nous vient d'Afrique.
Et est-ce que tout cela, en fait, n'a pas contribué aussi à redonner une image positive aux médicaments ? On a bien vu ces dernières années, en termes de notoriété, de réputation, qu'il y avait, en fait, une sorte de confiance retrouvée ou renouvelée dans le médicament.
Ah, vous savez, moi, au début, quand j'introduisais le sujet, il y a 5 ans, en disant la iatrogénie médicamenteuse, ça c'est quand on parle à des professionnels, c'est 10 000 morts par an. Quand je rentrais à la maison, c'est-à-dire le LEM, je me faisais engueuler, évidemment. Qu'est-ce que t'as été raconté ? Le médicament, 10 000 morts, on ne te rend pas compte ? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ces morts, ce sont nos morts, pardon de le dire comme ça. Ce sont des morts qui, évidemment, ont été produits, et ça nous meurtrit davantage encore. Parce que les médicaments sont faits pour nous aider, pour nous guérir, pour nous soigner. Et quand ils arrivent à ces conséquences d'hospitalisation, de morbimortalité, évidemment, c'est un drame absolu. On ne peut pas ne pas s'occuper de cela. Et c'est en étant transparent sur le phénomène, en le prenant en charge, qu'au contraire, on optimise la crédibilité du médicament. Donc, oui, le médicament est un objet d'une utilité extraordinaire. C'est aujourd'hui, je crois, le premier contributeur à l'amélioration de la santé des gens. Vous savez, c'était pas ça au XVIIIe siècle. Hein. Se laver les mains, c'était beaucoup mieux que de prendre un traitement. Je crois qu'aujourd'hui, le médicament est le premier contributeur à l'optimisation de la santé. Donc, faut jamais oublier de dire ça. Mais il y a des conséquences quand on l'utilise mal. Ça n'incrimine pas le médicament quand on dit ça. C'est le fait de mal l'utiliser. Ça donne là toute l'ampleur des marges d'action que l'on peut faire. C'est avec un discours, je suis convaincu, au fond de maîtrise de cela. C'est avec un discours de cette clarté-là qu'au contraire, on renforcera la confiance dans le médicament.
Et là, dans les l'ABUM existe depuis 5 ans. Votre programme pour les 5 prochaines années ?
Alors, c'est de continuer toujours. Mais vous savez, je suis surpris de la dynamique qui est en cours. J'allais dire en marche, mais ce n'est pas le bon moment pour le dire. Donc, poursuivre cette dynamique, arriver à encore davantage se professionnaliser. Voilà, une association, c'est merveilleux parce que ça repose sur le volontariat. On donne tous de notre temps, on a tous des métiers par ailleurs, et c'est une cause qui nous dépasse. Donc il faut conserver cette fraîcheur d'âme et puis faire des choses en même temps extrêmement sérieuses.
J'ai l'impression que le BUM, c'est une étoile de mer avec plein de possibilités, en tout cas de perspectives. Aujourd'hui, il y a aussi une aide de la part de la Convention, par exemple, puisqu'il y a des nouvelles missions qui vont être confiées aux pharmaciens. Pour la femme enceinte, par exemple, je pense à ça, un petit entretien, un entretien court pour le bon usage du médicament. L'assurance maladie a vraiment pris en considération le fait que le pharmacien était un acteur important du bon usage du médicament et qu'il y a une rémunération liée à ça. Ça veut dire que oui, tous ces leviers, ce sont des leviers finalement. Et pour vous, c'est intéressant d'après de surfer sur ces nouveaux leviers.
Bien sûr. Je crois que c'est pas un hasard si tous les acteurs de la chaîne du médicament nous ont rejoints à l'ABUM. Parce que l'ABUM, c'est un grand laboratoire au sein duquel on réfléchit, on teste, on met en place des actions, on promeut, on est au courant de tout ce qui se passe. Et derrière, je ne doute pas une seconde, et j'en suis même fier et heureux, que chacun de ces acteurs, quand il se replie dans sa vie professionnelle, ici dans sa vie syndicale, eh bien s'inspire de ce que nous avons fait pour, dans le cadre d'une convention, pouvoir dire, ben, vous savez, nous on a fait ça, et je sais que ça a déjà joué un rôle, on a fait ça, et ça mérite d'être étendu, ça mérite d'être organisé, d'être structuré, d'être rémunéré. Et voilà, encore une fois, pillez-nous.
Mais là aussi, ce travail sur l'intervention pharmaceutique qui est exceptionnel, qui doit se mettre en place, parce que c'est vrai qu'on peut faire des actions au sein de l'officine. Attention, là, on a réussi à sauver la mise pour tel patient parce qu'il ne devait pas prendre d'anti-inflammatoire, parce que voilà, il a un problème rénal. Enfin voilà, ça peut être tout ça. Et toutes ces interventions, il faudrait arriver maintenant à les partager entre les officines et entre les professionnels de santé. Est-ce que l'ABUM pourrait être justement une plateforme d'échange de ces interventions ?
Alors ça l'est au quotidien. Vous savez, quand nous nous réunissons, nous avons gardé nos premiers termes. D'ailleurs, quand nous nous réunissons, nous avons un comité de pilotage. Vous voyez, on ne parle pas de conseil d'administration, on a un comité de pilotage. Eh bien, ces discussions, ce sont celles-là. C'est-à-dire, chacun se parle, les médecins, les pharmaciens, etc., de son expérience sur le bon usage du médicament. J'aime bien le terme que vous avez employé, qui est le terme de partage. Mais ce terme de partage, on le retrouve partout, à la fois dans le partage des expériences, dans le partage des expériences collectives, c'est ce que nous pouvons faire, dans le partage des expériences individuelles. On avait monté un programme de formation, j'espère qu'il continue, en partenariat avec les URPS, qui consistait à dire à chaque pharmacien d'officine, inviter une fois par mois, on a créé un module pour ça, pour les aider à animer, vos médecins correspondants. Voilà. Fermez l'officine entre 20h et 21h, vous faites une heure de réunion avec vos médecins correspondants et vous vous interrogez sur ce que vous avez fait, ce que vous avez vu passer en matière de bon usage du médicament durant le mois passé. Quelle est votre expérience commune ? Vous voyez, ouais, partage un mutuel, c'est absolument clé, mais, et c'est dans les gènes de ce que nous voulons faire.
Et justement, bon, pendant longtemps, on a eu cette, je dirais, cette confrontation, pour employer un mot pas trop violent, entre les médecins et les pharmaciens sur le bon usage. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, justement, qu'on n'est plus dans la confrontation, mais on est dans une collaboration, un peu, dans un climat un peu plus calme et assaini ?
Alors moi, je ne ressens plus du tout de confrontation sur le mode « c'est mon affaire, c'est ma compétence, c'est mon expertise, c'est pas la tienne ». Je crois que ça a beaucoup évolué ces dernières années, probablement du fait de la complexité, d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, les médicaments sont quand même d'une complexité extraordinaire. Donc chacun admet, sauf peut-être en matière de Covid, on a eu de contre-expérience, qu'il n'est pas...
On a eu 50 millions
voilà,
de...
Voilà.
Mais quand même,
à part le Covid, je dirais qu'on a plutôt tendance à reconnaître qu'on ne peut pas être expert de tout et que c'est très bien qu'il y ait des pharmaciens et qu'il y ait des médecins, etc.
Il faut aller sur les plateaux.
Le gros problème, c'est de la capacité à se faire, faire parler entre eux, ces acteurs. C'est ça le vrai sujet. C'est le pharmacien qui est sur une ordonnance où il note que quelque chose ne va pas, qu'il y a une interaction médicamenteuse, qui veut en parler au médecin référent, donc au médecin prescripteur, je veux dire, et qui n'arrive pas à le joindre. Et je ne vous raconte pas quand c'est un médecin hospitalier. Voilà. Donc le vrai sujet, c'est l'interopérabilité entre les acteurs. Là encore, l'outil informatique nous aide énormément.
Et va nous aider, parce que c'est vrai que là, on va bientôt recevoir la délégation numérique en santé et qui va nous expliquer où on en est dans ce déploiement du Ségur de la santé numérique en santé qui va justement permettre cette interopérabilité avec au centre le patient.
Formidablement intéressant.
Ce sera dans une vingtaine de minutes à 15h15.
Quel sens de la reprise, de la relance, David. Bravo. Mais écoutez, merci beaucoup Eric Vasillac. Je rappelle que vous êtes président de la BUM. Vous nous expliquez effectivement l'importance, le rôle du bon usage des médicaments et de cette association. Et je redonne toute la parole à Valentin. Et
je vous remercie bien bas.
Merci à vous.
Mon ami Jean-Yves Méré. Merci Jean-Yves. David, on reste ensemble. Vous qui nous écoutez, restez avec nous. On va marquer une courte pause, 1 minute 30. Et après, on parlera de la communication. Comment communiquer dans la pharma auprès des jeunes avec un média qui s'appelle Buzz de comptoir. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais alors il y a des petites perles, on en a repéré quelques-unes avec David, on vous les lira aller dans moins de 2 minutes sur Pharma Radio.
Pharma Radio, en direct du salon Pharmagora Plus. Valentin Flamand, David Petro.